C'est notre rendez-vous hebdomadaire avec la littérature et nos spécialistes sont d'ores et déjà en studio. J'ai le plaisir d'accueillir Philippe Noni, Diego Arrabal et votre invité. Bonjour à tous.
Bonjour Gilles.
Bonjour
Diego Arrabal.
Comment allez-vous tous les amis?
Eh bien écoutez, très bien. On signale juste aujourd'hui, hein, on souhaite de très bonnes vacances à Philippe Subercaz, voilà,
hein, qui est au soleil.
Qui fait bien. Je l'ai eu hier, il m'a dit qu'il faisait beau par rapport effectivement à ici. C'est pas tout à fait la même chose. Bon, écoutez, en tous les cas, Gilles, ils sont de retour. Je vous annonce une bonne nouvelle. À ma droite, pesant 110 kilos sur la balance, Philippe Subercassix, le guerrier bigourdant, porté en triomphe sur un bouclier à Arverne. À ma gauche, pesant 105 kilos, Diego Arrabalix, le druide gaulois de la Bigorre qui prépare la potion magique, accompagné de Philippe Nonix, le barde timide, tout le monde le sait. Ils reviennent pour notre plus grand plaisir dans le tome 2 du roman « Le silence des Carnix, gallo-romanisation et crépuscule du Comminges gaulois ». Bonjour Grégory Chanfraud.
Bonjour.
Bonjour Grégory.
Vous nous revenez après le tome 1 qui a été un succès littéraire pour ce tome 2 dont je vais lire la quatrième de couverture. Printemps 44, voici presque 10 ans que la guerre des Gaules est terminée. Artogenos, chef des Convennes, voit de plus en plus de Romains s'installer sur son territoire. Entre honneur et raison, entre fronde et traîtrise, après Meurthe et Larsin, Artogenos va devoir manœuvrer habilement afin que la paix entre les peuples puisse perdurer dans les Pyrénées centrales. Si cela est encore possible. Qu'est-ce qui vous a incité, Grégory Chanfraud, à écrire ces deux tomes qui parlent des racines gauloises, des Comminges, votre région d'origine?
Eh bien, c'est d'abord le succès du premier tome qui m'a un peu poussé à en écrire un second, puisqu'on me l'a beaucoup réclamé, premièrement. Puis j'avais dans mes recherches des faits que je n'avais pas pu écrire sur le premier, donc l'occasion faisant le larron, j'ai tout greffé sur le second tome.
Sur le second tome. Dans ce deuxième tome, bon, on voit les Romains hein, s'installer dans les Pyrénées centrales et puis infuser leur culture, leur vision du monde, leurs croyances. On en est encore les destinataires. Hein. Mmh. Aujourd'hui, dans notre droit, dans les monuments que l'on peut avoir, dans les oppidums que l'on peut voir par-ci par-là, les villas romaines. Donc infuser leur culture, leur vision du monde, leurs croyances à un peuple gaulois qui s'interroge. Parce que forcément, quand deux cultures se tamponnent,
ce télescope,
ça produit quand même effectivement, vous le dites dans le livre, hein, quelques étincelles, plus que des étincelles. Encore aujourd'hui, on peut voir des témoignages de la présence des Gaulois dans ce monde qui fut dominé par la Pax Romana. Alors quand je dis encore aujourd'hui, on peut voir des témoignages, moi je ne les vois pas. On arrive à les voir grâce à votre livre. Comment vous faites pour faire vos recherches et pour arriver à nous faire voir effectivement ce que l'on ne voit pas, puisque vous mettez même dans votre livre, au niveau des chapitres, des photos de traces gauloises. Et nous, on est incapable de les voir. Comment vous faites, vous, pour y arriver et pour arriver à nous faire passer ça dans votre roman?
Alors, juste un petit détail que je souhaite reprendre. Quand Philippe, tu as lu la quatrième de couverture, tu as dit que c'était en 44, c'est à moins 44.
C'est à moins 44.
Donc, on est vraiment aux prémices de la,
j'ai oublié
de
le
la,
moins, c'est exact.
De la période gallo-romaine. Hein. On est vraiment sur l'implantation, sur les
D'accord.
fondations.
Je vous promets d'aller chez l'ophtalmo, là. J'ai oublié le moins.
C'est pas grave, Philippe. C'est pas grave. Non, parce que les auditeurs ne vont pas comprendre pourquoi on est 10
ans
après la
guerre
des Gaules en 44. Voilà. Donc pour répondre à ta question, je fais mes recherches premièrement sur des très vieux livres, ce que j'appelle des trésors, des puits de savoir.
C'est des très vieux livres et qui datent de quand?
Alors les livres ont environ un siècle. Je me base sur des recherches des tout premiers chercheurs tels que Raymond Lysop, Cassion d'Aspé, Sacaz, etc.
Présentez-les-nous un peu parce que les auditeurs ne connaissent pas.
Ce sont des professeurs S-lettres, des chercheurs de la Société des études du Comminges que l'on appelle chez nous la Vieille Dame. Donc je salue plusieurs personnes qui y sont encore actuellement avec qui je traite de temps en temps. Donc à partir de ces livres, Je tombe sur des vérités qui ont été oubliées et qui me mènent sur des lieux plus ou moins improbables, d'autres plus probables, tels que les chapelles, les églises, où on a quelque chose qui est vraiment unique en France et peut-être même dans le monde entier, qui se situe en Comminges, c'est leur emploi d'autel votif sur les églises et les chapelles.
Leur emploi d'autel votif
gallo-romain.
Donc, dont on a changé la destination, puisqu'aujourd'hui, quand on les voit, que ce soit Diego Arrabal ou moi, on va penser effectivement que c'est quelque chose qui est rattaché à la chrétienté, alors que c'est avant la chrétienté, puisque là, on est en moins 44.
Tout à fait. Alors, on en trouve énormément dans la vallée du Huchonnet. C'est ce que j'appelle le paradis de l'hôtel votif. Alors, moi, c'est mon laboratoire à ciel ouvert. Hein. Il y a pire comme cadre en plus, donc c'est toujours agréable d'aller rechercher par là-haut. Et ce qu'il faut comprendre avec l'hôtel votif, c'est qu'on peut s'imprégner de leur culture, de leur croyance à travers ça, par rapport à ce qui est écrit. Mais aussi, on connaît tout le panthéon pyrénéen grâce à eux. Les Romains ont gardé dans leur panthéon les premières déités indigènes. Et les locaux ont utilisé la pratique romaine, hein, parce qu'on doit ça aux Romains. Hein, c'est les Romains qui amènent cette tradition de l'hôtel votif, cette culture.
Ça n'existait pas chez les Gaulois.
Et ça n'existait pas chez les Gaulois, puisqu'on écrit pratiquement pas ou très très peu. Alors je souligne par rapport à ça, si vous le permettez, qu'une trouvaille archéologique qui a lieu il y a bientôt 2 ans, qui s'est faite au Pays Basque. C'est une main en bronze, la main d'Irulegui, où on retrouve des caractères ibères qui prouvent que déjà on écrivait chez les Gaulois celtibères. Et ces caractères sont de l'ibère, qui est l'ancêtre du basque, qui est un proto-basque. Puisque là, on a pu traduire la première ligne qui veut dire Sorioneku. Sorioneku en basque actuel, ça veut clairement dire toutes mes félicitations.
D'accord.
Ce qui peut clore beaucoup de débats. Bon, après, vous savez, dans l'archéologie, on attend d'être sûr à 99,9. mais c'est quand même quelque chose qui doit être souligné. Je trouve que c'est assez triste. On en a très, très peu parlé dans la presse, alors qu'en Espagne, ça fait beaucoup de bruit.
C'est une information qu'on n'avait pas du tout. Je ne sais pas si Gilles, vous avez entendu cette information concernant effectivement cette main, parce qu'on sait que vous êtes l'archéologue, Gilles, de Radio Présence.
Exactement, avec Philippe Nonix.
Avec Philippe Nonix, voilà.
Oui, c'est incroyable.
C'est vraiment quelque chose d'étonnant, parce qu'auparavant, donc, on pensait que l'écriture n'existait pas. Donc là, il y a 2 ans, on remet en cause...
Ce qu'il faut comprendre dans l'importance, et c'est pour ça que je souhaitais en parler, c'est que dans les hôtels votifs qu'on retrouve chez nous en Comminges, on a tout un panthéon avec des noms à caractère proto-basque, tels que Ilicho qui a donné le Luchon de Bannière de Luchon, Bannière de Luchon qui veut dire les bennes d'Ilicho. Ilicho, les reines qui signifient le bon frappeur, le Baigorix, donc comme au Pays Basque avec le
Baigorix, de Baigorix, Saint-Étienne de Baigorix,
ça signifie c'est un dieu des sources, ça veut dire le dieu rouge de la source rouge.
C'était des sources féroces, je suppose.
Oui, tout à fait.
D'accord.
On a un village en commun qui s'appelle Bajiri, c'est un tout petit village, mais Bajiri, c'est un dérivé de Baigorix, comme Luchon avec Ilicho, voilà. Donc on a un héritage fort en linguistique proto-basque en Comminges, et cette main prouve que la première langue parlée dans les Pyrénées, c'est l'ibère, tout simplement.
D'accord.
C'est aussi simple que ça.
D'accord. Donc
pour moi, c'est simple. Je ne sais pas si c'est
d'accord.
Simple.
Si. C'est simple. Alors c'est vrai que quelque part, ça veut dire que c'est la langue basque effectivement qui s'était imposée. Et je vais lire un extrait de votre livre, parce que ce qui est très intéressant, je trouve, dans votre roman, c'est qu'au-delà de l'histoire où vous nous faites remonter à moins 44, donc avant Jésus-Christ, c'est que vous nous faites visiter aussi les lieux. Et vous nous invitez à avoir un autre regard, qui n'est pas le regard qu'on a actuellement, mais de dire, regardez, au-delà de ce que vous voyez actuellement, au-delà de l'occupation des Romains, avant, regardez, il y avait les Gaulois.
Oui.
Et notamment avec certaines montagnes, comme par exemple le toit des Comminges, donc
le Cagir.
Voilà, le Cagir, qui vient d'un dieu...
Le Caïoris, ou le Cagir, le Caïros. Le G ne se prononce pas à cette période. Donc, on va plutôt dire le kairos. Ça signifie la graine de pierre élevée.
D'accord. Et ça a donné le kagir donc aujourd'hui. Donc,
tout
la graine de pierre élevée.
C'est un monde divinisé. Comme le pic du Gard. Le pic du Gard, c'est le Gara, à la base.
D'accord.
Donc, ça signifie l'élevé. Le Gard, qu'on retrouve au départ de Garonne aussi. Garonne qui signifie, déjà à cette époque-là, l'eau élevée. L'eau d'en haut.
L'eau d'en haut.
Gard élevé, on.
D'accord. L'eau. Est-ce que notre spécialiste Gilles de Radio Présence connaissait vous
ah non, je ne connaissais pas. Non.
Moi je pensais que vous étiez au fait de toute.
Non, j'avais pas révisé ce matin, mais si j'avais su, j'aurais révisé.
Vous êtes bon pour la session de septembre.
Non, mais en tout cas, ça va faire plaisir aux Basques qui nous écoutent.
Et ça, tout à fait.
Voilà.
Ou pas, c'est un sujet un peu épineux. Hein, quand même.
Ah bon ? Ah bon ? Oui. Ah bon, pourquoi ?
Oh, ben, la langue basque, c'est un sujet qui écharpe tout ce petit monde depuis longtemps, quand même. Hein. On a entendu dire que ça pouvait venir, la langue pouvait venir d'Afrique, d'autres étaient déjà sur ce fait-là, que ça viendrait des Vascones. On a entendu beaucoup de choses.
D'accord, donc le fait d'avoir trouvé cette main, ça remet un peu l'église au centre
énormément.
Du village.
Ah oui, complètement.
D'accord, enfin, même si on est en moins 44 avant Jésus-Christ, ça remet quand même l'église au centre
du
village.
Oui, et donc je précise que cette main est datée d'avant-guerre des Gaules. Donc on est bien sur des populations pré-romaines.
Pré-romaines, d'accord.
Voilà. Donc tout ça pour dire aussi que on pourrait croire que je parle beaucoup de la période pré-romaine, mais quand même il faut souligner que les Romains ont eu énormément de tolérance. Alors de la tolérance certes, après peut-être que le commun joie est un peu tête de bois, donc peut-être que déjà à cette époque-là, ils ont insisté à pour garder leur panthéon, etc. Mais il faut souligner que les Romains ont été très utiles dans ce savoir-là encore aujourd'hui, quoi.
Alors je vais lire page 16, ça se déroule, donc c'est Mont-Léhéren à Ardiège. Ardiège, c'est situé.
Alors Ardiège, c'est entre Saint-Gaudens et Montrégeau.
D'accord.
C'est un tout petit village sur les premières Pyrénées, on appelle ça les premières collines.
D'accord, donc on est en avril, moins 44. La poussière vole derrière le cheval au galop. Des paysans courbés aux champs se redressent en pestant sur le cavalier qui les fait tousser après son passage éclair. Convictos se moque bien de ce qui se passe hors de sa route. Qu'y a-t-il de plus important que la fabuleuse et réjouissante nouvelle qu'il s'apprête à livrer aux siens ? Malgré le vent dans ses yeux, le négociant convène, au beau milieu de la plaine garonnaise, voit prêt au poindre les premières demeures surplombées par le majestueux, verdoyant et rocailleux Mont-Léhéren. Les locaux avaient adopté une humeur fataliste depuis la fin de la guerre des Gaules, il y avait déjà 9 ans. Une bonne nouvelle ne pourrait leur faire que du bien. Convictol se savait, il passa l'entrée du village sans décélérer en hurlant joyeusement « César est mort ! César est mort ! Réjouissez-vous ! César est mort !» Les habitants sortirent de leur chaumière, cette nouvelle les remplissait de joie et d'espoir intérieurement. Mais les manifestations de bonheur furent longues à se montrer, tant ces gens s'étaient fait une raison quant à leur avenir, liés aux vainqueurs de la guerre par la force des choses. Le messager fit encore 2 fois le tour des habitations, avant de s'arrêter devant le vieux et grand chêne qui surplombait le Pagos. Il descendit de son destrier et enlaça des hommes et des femmes qui se délectaient de la nouvelle. Une voix autoritaire stoppa net les célébrations. Cela suffit. Êtes-vous donc à ce point stupide et dénué de bon sens ? Faut pas se réjouir trop vite. On voit que César est mort. On pense qu'avec César qui est mort, ben quelque part, l'occupation romaine deviendra un peu moins. Et en fait, non.
C'est effectivement un traumatisme, je pense, pour les jeunes de cette époque-là, qui ont subi la tyrannie césarienne. Alors ça, c'est quelque chose que je mets en lien absolument, parce que je vois pas comment ça aurait pu être différent. Pour moi, à cette époque-là, César est comme Hitler pour nous aujourd'hui, tout simplement. C'est un tyran, hein. faut pas se mentir, César c'est un tyran, hein. Il a fait des génocides, notamment chez les peuples belges, je vais pas revenir là-dessus, hein. Mais je l'écris à un moment donné dans le livre, en fin de livre, on a tous entendu nos grands-parents parler de la Seconde Guerre mondiale en disant « nous ne voulions pas devenir allemands ». Eh bien, je pense qu'à cette époque-là, ils ne voulaient pas devenir romains. C'est d'une logique implacable.
C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui encore, et c'est ça qui est vraiment intéressant qu'on découvre dans votre roman, c'est que vous nous faites découvrir aussi l'histoire des lieux, vous nous invitez à avoir un regard différent, Je le disais tout à l'heure, donc vous avez plusieurs chapitres, effectivement, vous mettez des photos en début de page pour illustrer effectivement donc les différentes je ne sais pas si on peut appeler ça du petit patrimoine, mais tout le patrimoine que l'on peut retrouver donc à l'intérieur des églises aujourd'hui, qui a été réemployé différemment. Ça vous a jamais tenté d'écrire, en plus de ce roman, un guide touristique pour donner aux gens envie d'aller voir effectivement ces hôtels votifs qui ont été complètement donc détournés, hein, de leur usage primitif, et il y a pas de, c'est pas du tout péjoratif quand je dis primitif, pour ensuite en faire quelque chose d'autre, parce que ça serait vraiment intéressant. Moi j'ai du mal à arriver à avoir ce regard là
oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai plus de facilité, je vais dire, à écrire du roman historique. C'est plus plaisant, même je pense qu'à une époque où les gens lisent de moins en moins, je pense que c'est aussi une manière d'amener les gens à un certain savoir tout en se faisant plaisir. Mais oui, alors quand je serai à la retraite, comme Diego Arrabal, je
me dirai, vous n'aurez plus le temps.
Je n'ai pas résisté.
qui a un âge, mais qui a un âge, bon, nous,
très nous, canonique.
Un Gilles, nous ne dirons rien sur l'âge de Diego Arrabal. Hein.
Non, on ne donnera pas ce
nom. Non, j'exagère. Après, je songe vraiment à me lancer dans des écritures plus sérieuses, on va dire. Bien que celle-là le soit déjà, hein, mais plus à travailler sur les anciens panthéons pyrénéens, la culture pré-romaine. Oui, c'est quelque chose qui me travaille. Oui.
Parce que là, par exemple, vous mettez en page 80, donc au chapitre « En tournée », « Tête gauloise, roche sculptée retrouvée à Souesche par Georges Fouette ». Hein, qui est
voilà. Oui, Georges Fouette, qui est l'archéologue qui a fait les premières fouilles de la villa gallo-romaine de Montmorin, qui est peut-être le plus beau trésor du Comminges.
D'accord.
C'est une des plus belles villas de toute l'Aquitaine.
Voilà. Moi, j'ai trouvé très intéressant que dans votre roman, vous illustriez effectivement par des photos, parce que ça donne vraiment envie d'y aller. Je vais lire un extrait. C'est en page 122. Alors là, par contre, on revient dans les Hautes-Pyrénées. C'est Mont Hergé, Mont Serrier.
Voilà.
En janvier, moins 43. Les collines qui font serpenter. Vous connaissez là.
Moi je connais, oui, moi j'étais déjà à l'époque.
Vous y étiez déjà. Ah ben voilà. Non mais on se doutait bien, si on n'osait pas vous le dire.
Montserrier qui est territoire comminjois à cette époque-là.
C'est le territoire des
Convennes. Le territoire des Convennes s'étendait jusqu'à Ciotat, juste avant Bagnères de Bigorre.
Ah d'accord.
Ciotat signifie la Civitas.
D'accord.
Voilà pourquoi.
Et alors, Ciotat, donc, juste à longueur, où ça venait, Bagnères de Bigorre faisait partie
parce que Bagnères de Bigorre, c'est les Bigarrioles. D'accord. C'est la tribu des Bigarrions, donc qui a donné la Bigorre.
D'accord, qui a donné la Bigorre. Voilà. D'accord. Les collines qui font serpenter Nest dans sa course vers Garonne étaient difficiles à trouver dans ce brouillard épais à couper au glaive. Les pluies avaient enfin cessé de s'abattre sur les terres convéniennes. Abélion retrouvait sa place pour le plus grand bonheur des habitants. Arctogénos se présenta au pied du mont Hergé. Les gardes le laissèrent naturellement entrer. Il chevaucha jusqu'au sanctuaire d'Hergé et y déposa des pierres et des fleurs avant de continuer son chemin jusqu'au village. Il demanda aux habitants si l'homme qu'il recherchait se trouvait bien ici. Une fillette le conduisit jusqu'à sa petite chaumière, puis il y entra sans même demander audience. « Arctogénos, mes paraères Belaïsté, que fais-tu ici et dans ma demeure, qui plus est ?» Il jure par A.R. Belaïsté, c'est un dieu.
Alors A.R. Belaïsté, c'est l'équivalent de la Kerbels chez les Basques. C'est le même. C'est un dieu sombre, on va dire, un dieu des souterrains, dans cette culture-là. C'est pas forcément mauvais, mais un peu quand même.
Un peu quand même, d'accord.
C'est assez complexe, je vais pas étaler tout cela, mais
d'accord.
C'est complexe.
Pour celles et ceux qui auraient pris l'émission en cours de route, nous recevons Grégory Chanfraud, donc pour Le Silence des Carnix, tome 2, donc Gallo-romanisation et crépuscule du Comminges gaulois, qui se déroule en moins 44, donc avant Jésus-Christ. C'est publié aux éditions du Net. Il y a eu le tome 1 qu'on vous recommande chaudement de lire, et ce tome 2 qui vient effectivement compléter et qui parle cette fois-ci donc de l'occupation des Romains et effectivement de ce qu'ils vont y laisser. Lisez-le, c'est aussi une invitation à voyager. Moi, je vous avoue qu'en le lisant, quand on voit les photos, ça donne envie effectivement d'y aller. C'est-à-dire, j'ai marqué sur un petit papier les différents lieux avec les photos, puis je me suis dit, tiens, là, il va falloir que j'y aille, là, il va falloir que j'y aille.
C'est le Comminges, c'est un musée gallo-romain à ciel ouvert.
À ciel ouvert.
Alors, ce que je trouvais important dans ce livre, c'est de donner plus de clarté sur des petits lieux méconnus. Parce que sur le gallo-romain, Comminges, on met en avant beaucoup la villa gallo-romaine de Montmorin, donc comme je le disais, qui est quand même magnifique, hein, c'est un trésor. Saint-Bertrand de Comminges, évidemment, dont le Luc du Nom convient à Rome, hein, qui était une des trois plus grandes cités gallo-romaines sous l'Empire romain, quand même. Il faut le savoir.
D'accord.
Avec Agen et Sainte. C'était une des plus grandes cités. Hein. Y a, je ne sais plus quel philosophe italien dit qu'on pouvait aller de Valentine à Saint-Bertrand de Comminges, un chat pouvait aller de Valentine à Saint-Bertrand de Comminges en sautant de toit en toit. Donc ça donne une idée de toute la plaine garonnaise, de la plaine de rivière, comme on l'appelle en Comminges, était farcie de maisons. Alors qu'aujourd'hui, c'est des champs. C'est incroyable. Quand on se fait cette idée-là, c'est incroyable. Pour les locaux, c'est incroyable. Vraiment. Et donc Saint-Bertrand de Comminges, qui était donc une des plus grandes cités, Montmorin, on connaît Valentine avec sa villa gallo-romaine, mais qui est là beaucoup plus tardive, par contre. Martre-Tolosane.
Valentine à côté de Saint-Gaudens, donc également.
Voilà, Martre-Tolosane aussi, qui avait une grande villa, plus tardive aussi. Mais on connaît peu d'endroits qui ont été occupés, notamment dans le Luchonnet. Le Luchonnet a été très exploité grâce à ses eaux prodigieuses.
Une question, votre roman, Jean-Fro, Le silence des Carnix, tome 2, Gallo-romanisation et crépuscule du Comminges gaulois, là aux éditions du Net. Un touriste qui arrive, qui va à l'office du tourisme de Saint-Gaudens, mm-hmm. Est-ce que toutes les informations qui sont contenues dans votre livre, un, il peut le trouver ou à l'office du tourisme? Et est-ce que l'office du tourisme, effectivement, oriente et également les personnes sur tout ce patrimoine-là que vous mettez en exergue?
Non, pas tellement. Pas tellement.
Bon, donc on leur passe un appel pour dire de lire votre roman, d'en acheter des exemplaires, de l'offrir donc aux touristes qui vont passer, parce que c'est quand même... Enfin, moi, j'avoue que je ne pensais pas qu'il y avait, très franchement, en commun, j'ai un trésor aussi important. On le découvre, hein, au travers de vos deux romans, et ça nous offre vraiment un autre regard. Vous voyez, je vous disais ce matin, hier, là, en montant en studio, j'étais à Saint-Gaudens. Depuis que j'ai lu vos romans, je regarde les paysages de manière différente là-bas, notamment les montagnes, en me disant, tiens, ça, c'était adoré par les Gaulois, alors qu'avant je me disais, bon, un beau montagnard que je suis, ben tiens, bel Cagir, je vais y aller au printemps.
En parlant du Cagir, ça me rappelle une anecdote. Je faisais une matinée dédicace à la maison de la presse d'Aspé, que je salue, et j'ai deux papis qui viennent devant mon stand et on discute de tout ça, je leur développe un peu mon sujet, et l'un d'entre eux me dit, c'est vrai que nos anciens appelé le Cagir le Cailleros. Donc leurs anciens, c'est pas si vieux que
c'est
ça.
C'est pas si vieux,
hein,
que ça, oui.
Et ça s'est perdu il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Mais ces deux vieux sages, j'ai envie de les appeler, m'ont fait un plaisir énorme en me disant ça, puisque on est sur la vérité, quoi. On est sur une vérité qui a plus de 2000 ans.
Ça donne, bon, 2000 ans pour vous, de Grégory Guarabal, c'est
vraiment un souffle.
C'est un souffle, quoi, je veux dire. Hein. Pour nous, bon, voilà.
Moi qui suis presque immortel.
Voilà, presque immortel. Bon, c'est l'immortel de Radio Présence, hein, Gilles Guarabal.
Oui, il y en a d'autres. Hein.
Il y en a d'autres qui veulent devenir, qui sont en voie de le devenir.
On donnera pas de nom.
Plus jeunes
que
moi.
On donnera pas de nom. Bon, en tous les cas.
Ils ont 1000 ans de moins que moi.
On rappelle, voilà, exactement. Grégory Chanfro, Le silence des Carnix, donc tome 2, Gallo-romanisation et crépuscule du Comminges gaulois aux éditions du Net. On recommande vraiment aux auditrices et aux auditeurs qui n'ont pas lu le tome 1 de les prendre. Juste avant de finir, vous avez des dédicaces qui sont prévues vers fin décembre, à partir du début novembre.
Alors, je serai le premier week-end de novembre au Salon du Livre de Souex-Rougail en Ariège. Je serai au Salon de l'Abarthe de Neste le premier week-end de décembre. Et je serai en conférence à la médiathèque de Saint-Gaudens, dans le magnifique auditorium, le 14 novembre prochain. Voilà.
Okay.
Et après, je me consacrerai à l'écriture pleinement à l'écriture de mon futur...
Troisième tome ?
Alors, il y aura un troisième tome, mais c'est pas ça que j'écris pour l'instant. Bon. Je suis sur la biographie du grand Vercingétorix.
Bon, on compte sur vous, Grégory Chanfroy, pour revenir nous voir. Par Vercingétorix. On compte sur vous pour revenir nous voir dès que vous l'aurez sorti, de nous contacter, et on vous recevra à nouveau.
Ce sera un plaisir.
Hein, ça rappellera l'enfance de Diego Arrabal, donc, durant effectivement l'invasion romaine. Et puis, on réinvitera Gilles, quoi. Hein, voilà. Notre archéologue, hein, au niveau de radio présence. Bon, voilà.
Bah, écoutez, la prochaine fois, je réviserai avant d'en revenir.
Ah non, mais j'espère, parce que vous serez bon pour la session de septembre, sinon...
Oui. J'irai visiter la villa Montmorin, voilà, avec une aile où il y a des thermes, il y a des anciens thermes.
Oui, et alors, petite précision, bon, ça fera un peu de pub à Montmorin, quand vous achetez votre entrée pour la villa... vous avez l'accès gratuit pour le musée qui se situe un peu plus haut au village. C'est aussi merveilleux à voir. Hein. On retrouve un peu de tout, c'est formidable.
Bon, bien, rendez-vous est pris. Hein. Vous nous enverrez des photos, Gilles.
Oui, exactement, avec plaisir. Ouais. Mais c'est vrai qu'on découvre le Comminges d'une autre manière.
Ah ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'on a voulu l'inviter, parce que même moi aujourd'hui, je vous dis que je vais là-bas pour le travail, j'ai un autre regard aujourd'hui. Et il me tarde de pouvoir me rendre effectivement à l'endroit des photos qu'il a prises, parce que je suis persuadé que j'aurais été dans ces endroits, j'aurais vu ça comme étant une manifestation... voilà, je dirais de la chrétienté, alors que c'est avant la chrétienté. Et ça permet d'avoir un autre regard, effectivement, ben sur nos ancêtres, les Gaulois, quoi.
Le tome 3 verra les débuts de chrétienté en Comminges.
Bon. Eh ben, on vous retrouvera donc pour ça, en 2025, donc.
Et nous, on va se retrouver avant 2025, la semaine prochaine.
Oui.
Vous revenez.
Voilà, on revient,
je pense.
Philippe Nonni, Diego Arrabal, et merci aussi à votre invité cette semaine. Un jour, un livre, un auteur. Vous êtes de retour la semaine prochaine.
Merci.
Bonne semaine.
Bonne semaine.
Merci à tous. Merci.